Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30 pile, bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Les transports publics commencent à être impactés par les absences dues à Omicron, les tout derniers chiffres avec Aurélien Fleureau. Et puis on verra quels sont les autres secteurs touchés avec Jean-Eudes Duménil de la CPME, les petites et les moyennes entreprises. C'est la grande ruée sur les autotests, mais quelle est leur fiabilité? On verra ça dans un instant avec Céline Géraud. On va revenir évidemment sur le couac à l'Assemblée nationale avec Louis de Ragnel. Les toutes dernières informations, le débat doit reprendre en fin d'après-midi. On va également vous emmener dans le nouveau QG de Valérie Pécresse, inauguré en ce moment même. Restez bien avec nous également puisqu'on sera avec Gauthier Capuçon à 12h50. Le célèbre violoncelliste nous dira pourquoi il a décidé de monter sa fondation d'aide aux jeunes musiciens. Et puis la tendance météo avec vous Marlène Duray.
Un mardi après-midi qui restera perturbé, pluvieux et venteux de l'Aquitaine au nord-est avec une baisse des températures qui s'amorce aujourd'hui au nord et au nord-ouest. Et puis on a un front secondaire qui s'organise près de la Manche. Avec pas mal d'averses, le temps sera plus calme ailleurs.
Merci Madeleine et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
La vague Omicron commence à bien désorganiser certains secteurs. Et oui, c'est le cas des transports publics. Aurélien Fleureau, vous avez les derniers chiffres. Bonjour Aurélien. Vous êtes
Bonjour,
en direct
Romain.
Avec nous. Pas de panique, hein, mais quelques situations compliquées quand même. Hein.
Oui, et parmi les exemples les plus spectaculaires, il y a celui des cas de chauffeurs de cars scolaires en Moselle. 177 manquent à l'appel, a fait savoir la région Grand Est. Alors, les horaires et les trajets ont été modifiés, mais dans ces métiers tendus, c'est compliqué de trouver des remplaçants disponibles immédiatement. Du côté de la SNCF, l'impact ne se ressent pas pour l'instant sur les TGV, mais plutôt sur les TER, où les plans de transport sont légèrement revus à la baisse. 15% de trafic en moins sur les lignes internes de Normandie, par exemple. Moins 10% dans les Hauts-de-France et moins 7% en Bretagne, où l'adaptation est quotidienne, explique Michèle Le Gallet, la responsable d'astreinte pour la région.
On a effectivement une augmentation de notre absentéisme due au cas Covid et au cas contact, mais on s'est préparé à cette situation-là depuis plusieurs jours dans l'entreprise. Quand il nous manque un conducteur, on va chercher un autre conducteur sur une autre journée qu'on va redécouper autrement.
Et en Île-de-France, la région a noté des absences en hausse de 6% dans les transports. Alors pas de quoi durement perturber le trafic dans des RER, bus ou métro qui transportent moins de passagers avec le renforcement du télétravail qui, de manière générale, fait baisser de 20 à 30% la fréquentation selon les régions.
Aurélien Fleureau, merci beaucoup Aurélien pour ces tout derniers chiffres. On est en direct avec Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Bonjour Jean-Eudes Duménil, merci
Bonjour.
D'être avec nous dans Europe Midi. On a parlé des transports là, avec Aurélien Fleureau. C'est le secteur le plus touché, les transports?
Oui, je pense que c'est parmi les secteurs les plus touchés. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'entreprise est petite, plus c'est difficile de s'organiser quand on a des salariés absents. On a eu un certain nombre d'exemples très précis d'entreprises dans lesquelles on avait des difficultés, dans les services à la personne notamment. Tout simplement parce que quand vous avez un salarié qui est responsable et qui suit une personne âgée, bah évidemment, s'il est absent, oui, il faut immédiatement trouver une solution. Dans le commerce et dans le petit commerce, on a ce même problème. Dans le secteur de la propreté, on a eu pas mal de remontées. Dans celui du bâtiment, enfin, vous voyez, malheureusement, ça traverse un peu tous les secteurs d'activité aujourd'hui.
Aide à la personne, commerce, petit commerce, également peut-être le secteur de la sécurité, probablement. Il y a de nouvelles règles sanitaires. Hein, on n'isole plus les cas contacts. Ça soulage les entreprises. Comment sont-elles appliquées, ces nouvelles règles, sur le terrain?
Ah, c'était absolument impératif, parce que dans la période précédente, on était sur une durée d'isolement qui pouvait aller, si la personne contaminée était dans le même foyer, jusqu'à 17 jours d'isolement. Donc là, l'économie se serait purement et simplement arrêtée avec les chiffres de contamination qu'on connaît aujourd'hui. Donc ces nouvelles règles, elles sont extrêmement bien perçues par les chefs d'entreprise. Elles vont sans doute permettre de franchir le cap et de s'organiser, même si ça va être compliqué. Par contre, il y a un point qui nous inquiète aujourd'hui, ce sont les conséquences de ce qui est en train de se passer à l'école. Si les enfants sont renvoyés chez eux parce qu'il y a des cas contacts, bah évidemment, derrière, il y aura des conséquences pour les parents et donc pour les entreprises. Et tout ça mis bout à bout entre les cas contacts, les personnes contaminées, les gardes d'enfants et les pénuries de compétences, parce qu'on avait déjà cette difficulté précédemment, là, on risque d'avoir un cocktail un peu inquiétant pour les semaines à venir.
Est-ce que vous pourriez être amené à demander, comme ce qui se passe dans les hôpitaux, hein, que les personnes positives viennent travailler pour sauver certaines entreprises, viennent travailler en portant un masque, en faisant attention, en ouvrant les fenêtres, si c'est un travail de bureau?
La priorité des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est évidemment de préserver la santé de leurs salariés et puis la leur, hein, par la même occasion. Donc, je crois que c'est vraiment ça le point numéro un. Après, si demain on était en situation vraiment de blocage, mais on n'en est pas là aujourd'hui, à ce moment-là, tout devrait être envisagé pour pouvoir s'en sortir. Mais voilà, pour l'instant, on n'en est pas là et on n'est pas dans cette situation où on doit demander aux personnes qui sont contaminées de venir travailler. Et puis, je vous rappelle qu'il y a aussi le télétravail. Et qu'il peut y avoir des gens qui sont asymptomatiques, contaminés, et qui continuent à travailler pendant ce temps-là, en période de télétravail. Et là, il faut effectivement qu'il y ait une forme de souplesse par rapport à la législation actuelle.
Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. J'ajoute également que Bruno Le Maire annonce un geste pour les TPE, les très petites entreprises, qui ont bénéficié d'un prêt garanti par l'État. Celles qui sont en grande difficulté pourront ne commencer à remboursés qu'à la fin de l'année et pourront étaler leur remboursement sur 10 ans. Vous avez probablement déjà été testé au Covid. Désormais, il y a une très forte demande pour les autotests. C'est pratique. On a le résultat en 15 minutes environ et jusqu'à la fin du mois, on peut en acheter en supermarché. Céline Géraud avec nous. Grande question, Céline. Que sait-on de leur fiabilité ?
Eh bien, c'est compliqué. Alors, je vous explique. Selon la Haute Autorité de Santé, un autotest antigénique effectué par un professionnel de santé détecte le virus dans 80% des cas. Mais dès lors qu'il est pratiqué à la maison, ce pourcentage chute brutalement. D'après une étude de chercheurs suisses, la fiabilité n'est plus que de 65,3% pour des personnes présentant des symptômes et de 44% seulement pour les asymptomatiques. Autrement dit, vous avez plus d'une chance sur deux d'obtenir un faux test négatif, surtout les premiers jours pendant le délai d'incubation où la charge virale est moins forte. Pour le professeur Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble, la fiabilité repose aussi sur la méthode de prélèvement.
Le problème, c'est le prélèvement. Quelle quantité on prélève? Est-ce qu'on est allé assez profond pour prélever comme il faut au bon endroit? Donc autant de paramètres que l'on ne maîtrise pas, hein, quand il s'agit d'un autotest, puisque c'est l'individu lui-même qui fait son propre prélèvement. Donc c'est extrêmement aléatoire.
En revanche, si les autotests sont réalisés plusieurs fois par semaine, leur fiabilité est mécaniquement renforcée. Toujours en complément d'un test PCR, bien sûr, ou d'un antigénique réalisé en pharmacie.
Merci beaucoup Céline, je me tourne vers vous désormais, Maude Descamps. Bonjour Maude.
Bonjour.
Je le disais, il y a une très forte demande pour ces autotests. Il y a des pénuries, hein, ici ou là, dans certaines pharmacies, on vous répond, maintenant j'en ai plus. Maude, est-ce qu'on va manquer de tests?
Alors, a priori, non, hein, si les délais de livraison restent encore un peu tendus, quelques jours, hein, entre la commande et la livraison en pharmacie, il y aura bien des autotests pour tout le monde. Alors, certains pharmaciens accusent la grande distribution d'avoir asséché les stocks, mais pour Gilles Bonnefond, qui est le porte-parole de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, eh bien, il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Je pense que très rapidement, les pouvoirs publics surveillent pour que les deux circuits puissent être approvisionnés et en priorité, bien sûr, celui qui concerne la pharmacie, puisqu'on est là sur une démarche de suivi de l'épidémie.
Alors, chez le principal fabricant français d'autotests à Strasbourg, la production a été multipliée par 5 en décembre. Ce sera x20 en janvier, ce qui nécessite évidemment des bras supplémentaires, comme l'a expliqué Aurène Bitton, directeur commercial de chez Biosynex.
Nos équipes travaillent en 3-8 depuis le début du mois de décembre. On a embauché plus de 200 intérimaires. Il faut avoir du monde pour mettre sous étui et sous paquet. Et c'est ce qui fait qu'on continue tant pour la production que pour aussi la préparation de commandes, puisque nos équipes préparent des commandes même la nuit pour envoyer tous les jours livrer 1500 pharmacies.
Et pharmaciens et fabricants disent aussi avoir anticipé le nouvel an chinois, hein, qui devrait fortement faire grimper la demande mondiale d'autotests mi-janvier.
Merci beaucoup, Maude, pour toutes ces informations. On a parlé des entreprises désorganisées. Du risque de manque de tests à l'instant, mais le vrai sujet d'inquiétude, c'est la tension hospitalière en France, évidemment. Il faut savoir, hein, écoutez bien ce chiffre, 91% des lits de réanimation actuellement en France sont occupés par des patients Covid et par les autres patients. Et on peut augmenter le nombre de lits, mais voilà le chiffre. Aujourd'hui, 91% des lits de réa en France, réanimation, sont occupés dans le pays. Est-ce que nos services de soins critiques vont être dépassés? Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Alors la tension est maximale si l'on prend l'exemple de la Corse. Il ne restait plus aucun lit de libre en réanimation à l'hôpital de Bastia vendredi dernier. Deux patients ont dû être transférés vers la Bretagne. En région PACA aussi, il y a eu plusieurs évacuations sanitaires. Là-bas, le taux d'occupation des lits en soins critiques est aujourd'hui de 108%. Cela veut dire que les capacités ont été dépassées. Alors pour continuer à accueillir les malades, des plans blancs ont été déclenchés. Cela permet d'affecter des soignants de différents services à de l'activité liée au Covid. Grâce à ce levier, 160 lits supplémentaires ont pu être ouverts. En Île-de-France, d'ici quelques jours, 50% des lits en réa seront occupés par des patients Covid. Pour augmenter la capacité d'accueil, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a demandé aux hôpitaux de déprogrammer un maximum d'activités dans les semaines à venir. Au niveau national, en moyenne, 1600 malades sont hospitalisés pour Covid chaque jour, un chiffre en constante hausse qui devrait accentuer la tension dans les hôpitaux français.
Yasmina Katou, merci Yasmina.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
Il est 12h41, le débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi visant à instaurer le pass vaccinal doit reprendre en fin d'après-midi, après le couac de cette nuit qu'on vous a raconté ce matin dans la matinale d'Europe 1. Louis Dragnel avec nous, bonjour Louis.
Bonjour Romain,
chef du service politique d'Europe 1. Le texte sera voté au final, hein, mais ça fait mauvais genre. Hein.
Ah oui, on peut même parler d'un camouflet, hein. C'est un vrai loupé, surtout avec un texte aussi sensible, aussi explosif que l'instauration du pass vaccinal. Mais ça montre une chose, le gouvernement qui était à l'initiative de ce projet de loi a été dépassé numériquement cette nuit à l'Assemblée nationale. Autant dire que normalement, ça n'arrive jamais. Et c'est le rôle notamment du président de groupe La République En Marche, Christophe Castaner, de veiller à ce qu'il y ait toujours le bon nombre de députés pour ne jamais être mis en minorité. Alors aujourd'hui, cette claque bouleverse l'agenda du gouvernement et les mesures sanitaires ne pourront pas être appliquées dès le 15 janvier comme espéré. Les débats, vous l'avez dit, devraient reprendre en fin d'après-midi à 18h, mais seulement pendant 1h30. Il faut savoir quand même qu'il reste encore 515 amendements à examiner, ce qui pourrait prendre en théorie encore une vingtaine d'heures. Donc ce ne sera absolument pas voté, ni ce soir, ni demain matin, ni après-demain matin. Mmh. En clair, donc, les débats ne sont vraiment pas près d'être terminés. Mais rappelons quand même, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'en dépit de cet échec du gouvernement, le texte devrait être finalement adopté par le Palais Bourbon sans trop de difficultés. Mais vous l'avez compris, pas aussi rapidement que le souhaitait le gouvernement.
Merci beaucoup Louis. Laurent Saint-Martin, bonjour. Député
bonjour.
La République En Marche du Val-de-Marne, rapporteur général du budget. Vous entendiez à l'instant Louis Dragnel. Qu'est-ce qu'a fait Christophe Castaner hier soir ?
Non, je crois que c'est un très mauvais procès qui est fait depuis ce matin. Les députés de La République En Marche et de la majorité dans son ensemble étaient très présents. Ce qui s'est passé, c'est vieux comme le Parlement, ça s'appelle un coup du rideau. Ce sont des oppositions qui arrivent à la dernière minute pour voter et faire basculer un vote. Je ne conteste pas l'issue du vote. Mais ce qui me frappe dans les analyses depuis ce matin et celle qu'on vient à nouveau d'entendre par votre confrère, c'est qu'on ne parle pas du fond. Personne ne semble choqué du fait que les Républicains ont voté contre la poursuite des travaux alors qu'ils veulent le pass vaccinal.
J'insiste sur le fait que ça fait mauvais genre, monsieur le député. Vos collègues étaient pour certains à la buvette.
Non, ça c'est totalement faux.
C'est totalement faux.
C'est totalement faux. Nous étions tous dans l'hémicycle, j'y étais moi-même, et j'en suis témoin, nous étions tous présents. Il y a eu un coup du rideau, encore une fois, c'est vieux comme le Parlement, et les oppositions sont venues en nombre au dernier moment. Encore une fois, c'est un vieux coup politicien classique, mais là on regarde le doigt quand on montre la lune. Pardon, hein. La question que vous devriez, je pense, collectivement vous poser, et nous avec vous, c'est pourquoi un camp politique, les Républicains, qui se dit favorable au pass vaccinal. Madame Pécresse, candidate des Républicains, se dit favorable au pass vaccinal, refuse la poursuite des débats pour la santé des Français. Parce que là où vous l'avez bien décrit, c'est quelle sera la conséquence de tout ça ? On va le voter. Et vous savez quoi ? Même les LR vont le voter avec nous. Mais qu'est-ce qu'ils auront gagné avec ce coup ? Eh bien, ils auront gagné, hélas, un décalage dans le temps de la mise en œuvre du pass vaccinal, c'est-à-dire une protection retardée de l'ensemble de nos concitoyens. J'appelle ça un comportement totalement irresponsable à 3 mois d'une élection présidentielle. Je pense que personne n'est dupe.
Vous confirmez que le pass vaccinal ne sera pas appliqué au 15 janvier comme prévu, alors ?
Eh bien, écoutez, le calendrier, effectivement, se trouve bousculé. Donc, il faudra regarder avec le Sénat, maintenant, comment on pourra rentrer dans ce calendrier-là. Mais, effectivement, j'insiste, que le Rassemblement national et la France insoumise bousculent le calendrier du vote. Soit, c'est leur rôle depuis le début, sans dans une position frontale de fond. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais que viennent s'associer le PS et les Républicains, parce qu'on est à 3 mois de l'élection présidentielle, au mépris et au détriment de la santé des Français, c'est un scandale. C'est absolument inacceptable et totalement irresponsable. Et j'attends toujours, puisque je n'ai pas vu sa réponse, la réaction de Valérie Pécresse, la candidate LR à l'élection présidentielle, par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Assume-t-elle d'avoir retardé la mise en place du pass vaccinal? L'assume-t-elle? Je n'ai pas encore entendu sa réponse.
Laurent Saint-Martin, j'ai une dernière question à vous poser, une réponse rapide, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas profiter de ce petit couac pour ajouter au vaccin, dans les conditions pour obtenir le pass vaccinal, l'immunité acquise lorsqu'on a été malade? Le pass vaccinal, pour obtenir un pass vaccinal, il faut se faire vacciner. Très bien, ça c'est... Pourquoi ne pas ajouter cette immunité acquise lorsqu'on est, on a le Covid?
Eh bien, vous voyez, c'est un très bon débat que nous aurions pu avoir hier soir, que nous aurons un peu ce soir, et malheureusement, nous l'aurons jusqu'à la fin du week-end, et nous aurions pu l'avoir de façon plus rapide et plus efficace pour l'ensemble de nos concitoyens. Mais ce débat que vous évoquez parmi tant d'autres questions qu'il y aura, la proportionnalité des jauges, beaucoup d'autres questions qui sont au cœur du débat parlementaire, eh bien, nous aurions pu les avoir hier, mais certains ont considéré que cette fois-ci, il ne fallait pas travailler après minuit, alors que c'est une pratique très courante à l'Assemblée, pour des raisons, encore une fois, purement tactiques et politiciennes que je déplore. Nous ne sommes pas engagés il y a 5 ans pour participer à ce genre de manœuvre. Nous sommes engagés pour être efficaces.
Voilà. Merci Laurent Saint-Martin. Merci. Le message est passé. Merci beaucoup, député LAREM du Val-de-Marne. Un témoignage à présent du bout du monde, celui de Richard Gasquet, arrivé fin décembre à Melbourne, en Australie évidemment, pour préparer l'Open d'Australie. Richard Gasquet a subi un premier test PCR négatif, mais le second, prévu par le protocole australien, s'est révélé, lui, positif. Richie, hein, Richard Gasquet, est donc à l'isolement jusqu'au week-end prochain dans sa chambre d'hôtel, j'allais dire comme tout le monde. Il est pourtant double vacciné. Gasquet avait déjà attrapé le Covid au printemps dernier. Au micro d'Axel May, il est un peu dépité. Écoutez.
C'est toujours le problème des joueurs de tennis, quoi. Voilà, c'est un métier où on sait que forcément on est très sujet au test Covid. Quand tu voyages dans le monde entier, c'est difficile. C'est clair que j'avais eu la chance l'an passé de l'avoir chez moi en France, donc ça m'avait un peu aidé. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué mentalement de l'avoir. Je m'attendais absolument pas. Là, j'ai une terrasse dans la chambre. C'est vrai que ça, c'est important. J'ai pu changer de chambre aujourd'hui. J'ai un vélo dans ma chambre et tout. J'essaye de quand même m'entretenir pour pas sortir trop fatigué dans une semaine, parce qu'il y a quand même l'Open Australie qui arrive vite. Ce qui est pas de chance, en plus, c'est que j'ai encore le décalage horaire. À 7h du mat, je suis réveillé, donc je peux bien profiter de la journée. Mais ce qui est important, comme j'ai dit, c'est pas de symptômes. Donc quand je sortirai, je pense que je récupérerai plus vite que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'étais quand même plus touché que cette fois-là.
Voilà, Richard Gasquet, donc, qui est isolé dans sa chambre d'hôtel et qui est donc positif pour la deuxième fois. Restez bien avec nous, 12h48. Dans un instant, on vous emmène dans le QG de Valérie Pécresse. Elle est en train de l'inaugurer en ce moment même. Et on va appeler Victor Chabert qui va nous le décrire et puis qui va nous parler de ce mois de janvier crucial pour la candidate LR des Républicains, donc la candidate LR à la présidentielle. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h50, la campagne présidentielle, elle reprend évidemment en pleine épidémie d'Omicron. Valérie Pécresse inaugure en ce moment même son nouveau QG dans le 17e arrondissement de la capitale. C'est dans le nord-ouest de Paris, pour faire simple. Victor Chabert en direct de ce nouveau QG. Bonjour Victor.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous êtes sur place. À quoi ressemble-t-il déjà ce nouveau QG ?
Alors c'est un immeuble de 3 étages à la façade bleue estampillée Pécresse 2022, situé dans le 17e arrondissement. Comme vous l'avez dit, un bâtiment assez moderne de 1500 m² qui sera surnommé la fabrique. On y entre en présentant son pass sanitaire. D'ailleurs, après une allocution présentant son organigramme, Valérie Pécresse a répondu à la polémique sur l'interruption de séance du texte du pass vaccinal hier, à laquelle ont participé des députés du groupe LR. Elle clarifie la ligne.
Nous critiquons l'impréparation de ce gouvernement, l'impréparation face à cette crise. Mais nous sommes aussi un parti en responsabilité. Et en responsabilité, la position du groupe a été affirmée, que ce soit à l'Assemblée, et elle le sera aussi au Sénat. Nous ne nous opposerons pas à ce texte. C'est la position du groupe à l'Assemblée et au Sénat.
Victor Chabert, ce mois de janvier, il va être crucial pour Valérie Pécresse.
Oui, elle l'a martelé, elle veut porter un projet de rupture, un mot d'ordre, rétablir l'autorité, la liberté et la dignité. Il y a deux enjeux pour la candidate, sortir du coude à coude avec Marine Le Pen, elles sont presque à égalité dans certains sondages, et se distinguer clairement d'Emmanuel Macron, qui lui est toujours loin devant.
Merci beaucoup Victor Chabert, en direct donc de la Fabrique dans le 17e arrondissement de Paris. Cette information tombée il y a quelques instants, le célèbre fabricant de chariots de supermarché Caddy, qui n'a pas poussé un Caddy dans sa vie, qui s'était déclaré hier en cessation de paiement, a été placé aujourd'hui, ce matin, en redressement judiciaire avec un mois et demi pour trouver un repreneur et sauver donc ses 140 emplois en Alsace. Information que je voulais vous donner. Le foot, la Coupe de France avec des Vannetais éliminés, mais dignes. Les joueurs de Vannes ont été battus 4-0 par le PSG, mais ils n'ont pas démérité les Parisiens qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Mbappé a réalisé un triplé. Cyril de la Morinerie,
oui.
Même si son contrat s'arrête fin juin, bonjour Cyril.
Bonjour.
Il reste très motivé Mbappé.
Ah oui, la réponse est oui, très clairement. Kylian Mbappé s'est offert hier soir son 7e triplé avec le PSG. Un premier but après une course folle où il a semé les défenseurs de Vannes. Un deuxième en pleine lucarne à la suite d'une talonnade de Verratti. Puis un troisième pour finir. Rendez-vous compte, Kylian Mbappé vient d'atteindre la barre symbolique des 150 buts avec le club parisien. Et il n'a que 23 ans. On le voit, le phénomène n'est jamais rassasié, s'enthousiasme l'un de nos consultants, Marc Libra.
Que ça soit une 8e division, une 4e division ou une Ligue 1, il n'en a rien à faire. Lui, il faut qu'il marque des buts. Quand on le sort, même à la 94e ou la 90e ou la 85e, il boude. Il n'est pas content. Jean-Pierre Papin, l'Olympique de Marseille, gagné 3-0. S'il n'est pas marqué, il n'est pas content. Kylian Mbappé, c'est pareil. Ce que je vais dire est très dur, mais le PSG est presque trop petit. Trop petit pour Kylian Mbappé.
En attendant, Kylian Mbappé veut tout gagner avec le PSG avant peut-être de rejoindre le meilleur club du monde, le Real Madrid, qu'il affrontera en huitième de finale avec le PSG, huitième de finale de la Ligue des Champions.
Cyril de la Morinerie, merci beaucoup Cyril. On est à présent en direct avec le violoncelliste Gauthier Capuçon. Bonjour Gauthier Capuçon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct dans Europe Midi avec nous. Vous venez nous parler de votre fondation, une fondation que vous venez de créer pour venir en aide aux jeunes musiciens touché par la crise, alors qu'on écoute une de vos œuvres. En tout cas, on vous écoute jouer. Comment vous est venue cette idée, Gauthier Capuçon ? Dites-nous.
Bah, vous savez, moi, ça fait depuis 10-15 ans que je suis maintenant engagé dans la transmission à l'éducation, et notamment cette période de transition des jeunes entre 18 et 25 ans à la fin des études, donc une période charnière qui est très importante. Et alors, on sait que en temps normal, c'est une période compliquée. Il faut, on sort d'un conservatoire avec son prix, on pense que voilà, la scène s'offre à nous, et puis on s'aperçoit très vite que c'est quand même compliqué. Il faut rencontrer les acteurs professionnels du monde de la culture et de la musique. Mais alors là, pendant cette période Covid et post-Covid, on espère bientôt, c'est une mission qui pour eux est quasiment impossible. Donc voilà, moi j'ai souhaité renforcer, structurer, pérenniser mon engagement et ce projet qui me tient à cœur et vraiment voilà, les faire profiter de mon expérience et de ma notoriété pour les aider et les accompagner.
Alors je me suis posé une question, pourquoi aider les jeunes musiciens et pas les vieux, enfin en tout cas les plus confirmés ?
Bah écoutez, parce que je pense que le monde de la culture a extrêmement souffert et a été très impacté pendant cette période, et les jeunes plus particulièrement. Oui. Et voilà, quand vous avez 18 ans, 20 ans, que vous sortez d'un conservatoire, bah c'est cette période qui est extrêmement importante, et sans coup de pouce aujourd'hui, c'est très difficile. Moi je les vois, que ce soit mes anciens élèves ou d'autres d'ailleurs qui viennent me voir à la fin des concerts ou qui m'écrivent, et ils ont vraiment besoin qu'on puisse tous les aider à notre manière. Et voilà, moi ça c'est ma manière de les aider, et c'est maintenant, je pense que c'est essentiel et vraiment important de le faire.
Vous craignez qu'on perde des talents qui se découragent et donc qui finalement finissent par arrêter la musique ?
Oui, bien sûr, on en a déjà perdu malheureusement. Oui. Et donc c'est pour ça que la fondation, les trois axes principaux, si vous me le permettez, oui. De cette fondation, le premier sera de les aider vraiment à se perfectionner dans leurs études, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis le deuxième et troisième axe, le deuxième est très important puisque c'est ce moment où on se retrouve sur scène. Et moi, j'ai vu pendant ma tournée Un été en France, à laquelle j'ai invité des artistes, des jeunes artistes pour monter sur scène, et j'ai vu à quel point, non seulement c'est évidemment essentiel pour eux, mais le public aussi, public classique qui n'est pas habitué à ce genre de première partie, ce qu'on pratique dans la variété depuis des années, de découvrir des jeunes et donc d'inviter ces jeunes à prendre part à un concert d'artistes confirmés qui sont programmés. Et puis, le troisième point, c'est une collaboration avec ma maison de disques Warner Classics. Et on présentera chaque année un lauréat qui enregistrera son premier disque. Et donc, je voulais, moi, être tout de suite dans l'action. Et donc, le premier lauréat, c'est un jeune pianiste de 22 ans qui s'appelle Kim Bernard. Il rentre en studio déjà fin janvier pour un disque qui sortira fin mai, début juin. Et il va faire son premier concert ce dimanche, lors de mon récital que je donne à Vienne, dans la grande salle du Concerthaus de Vienne, et donc qui
et ben voilà.
Interpréter une œuvre de Chopin pendant ce concert.
Formidable. Merci beaucoup, Gauthier Capuçon, Fondation Gauthier, Gauthier Capuçon sur Internet pour en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.